Le thème de notre soirée, c'est l'Église et l'écologie à travers les extraits de l'encyclique Laudato Si. Est-ce que tout le monde déjà a une feuille? Si vous n'avez pas de feuille, vous pouvez en partager, parce que j'en ai fait 70. Et donc, voilà, donc l'idée, c'est de pouvoir aussi partager les choses, les ressources. Tout d'abord, déjà, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Oui? Non? Répondez, oui? Non? Les gens du fond, vous m'entendez bien? Bon. D'abord, la question de cette encyclique Laudato Si, du pape François sur l'écologie, c'est une première sous plusieurs aspects. Alors, vous n'êtes peut-être pas très familier des encycliques, mais premièrement, là, une chose assez nouvelle, c'est que le titre soit en italien. Laudato Si, qui, comme vous le savez, fait partie des premiers mots du chant à la création de saint François d'Assise. Hein, vous connaissez le chant Laudato Si, O mi Signore. Et donc, voilà, c'est d'abord en italien que le pape a voulu donner cette encyclique, et non pas toutes les autres encycliques. C'est des encycliques dont le titre est en latin. Alors, mais ce n'est pas complètement, sans conséquence, parce que il y a la volonté aussi du Saint-Père de ne pas s'adresser qu'au cercle catholique. Et de fait, l'encyclique a été reçue de façon très positive par l'ensemble de la communauté internationale. Et du coup, ce que j'aimerais bien faire avec vous à travers un best-of, alors bien sûr, vous pouvez lire la totalité de l'encyclique, elle n'est pas très longue, mais bon, fait quoi, une centaine de pages peut-être, hein, 120 pages, ce n'est pas un très gros document, mais du coup, je me suis dit, voilà, on va prendre un certain nombre de thèmes, de textes, et sur lesquels nous allons méditer ensemble, et pour voir un peu comment le Saint-Père traite la chose. Parce qu'au fond, l'idée dans ce document, c'est de donner aussi une vision. Et je trouve que ce qui manque terriblement aussi à nos sociétés en grande transformation, c'est un manque de vision, un manque, j'allais dire, de quelque chose qui est beaucoup plus, qui prenne d'une certaine manière une certaine hauteur et non pas. Là, je suis allé juste avant la conférence sur le site de Écologie Les Verts, Europe Écologie Les Verts. Et donc, du coup, c'est intéressant. Je me suis dit, ben, est-ce qu'ils proposent, est-ce qu'ils ont une vision, est-ce que là... ben, bon, c'était des thèmes intéressants, mais c'est toujours du bon, voilà, traitement des déchets nucléaires, évidemment, l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, évidemment, bon, plusieurs. C'est des projets, mais on ne sent pas qu'il y a une. En tout cas, j'ai peut-être pas tout parcouru. Mais déjà, à partir de quelle vision de la personne humaine il développe ses projets? Parce que derrière toute politique, il y a une vision de la personne humaine, c'est évident. Et là, on sent qu'il y a un manque. Et puis, il n'y a pas que ce parti-là. Les partis, en général, proposent beaucoup de mesures, mais on ne sent pas une vision d'ensemble de la personne humaine. Et derrière ça, et derrière l'écologie, c'est une vision de la création. Et voilà. Donc, du coup, je trouve ce qui est intéressant avec le pape François, et en général avec l'Église, c'est que ça s'appuie sur une vision de la personne humaine, et ça s'appuie aussi sur la parole de Dieu qui vient éclairer. Alors, je vous propose de lire, donc essayez de partager, si vous n'avez pas la feuille, partagez comme ça avec d'autres. Ne soyez pas des individualistes indécrottables, comme souvent le sont les jeunes pros, mais essayez au contraire de mettre au service de l'autre qui n'a pas la feuille, ben, de pouvoir travailler et le lire avec, et puis de reprendre après le texte de l'encyclique. Si nous nous au numéro 11, juste pour un petit thème technique, c'est-à-dire que les numéros, tous les enseignements du magistère, c'est-à-dire des enseignements des papes, c'est les numéros. Donc, quand vous faites une référence, vous citez le numéro. Ce n'est pas la page, parce qu'il y a plusieurs éditions. Et donc, quelle que soit la page, vous retrouvez, à travers le numéro, le paragraphe qui est cité. Juste un petit aspect technique qui n'existe pas dans les autres ouvrages, du reste. Donc, au numéro 11, si nous nous approchons de la nature et de l'environnement sans cette ouverture de l'étonnement et de l'émerveillement, si nous ne parlons plus le langage de la fraternité et de la beauté dans notre relation avec le monde, nos attitudes seront celles des dominateurs, du consommateur, du pur exploiteur de ressources, incapable de fixer les limites de ses intérêts immédiats. En revanche, si nous nous sentons intimement unis à tout ce qui existe, la sobriété et le souci de protection jailliront spontanément. La pauvreté et l'austérité de saint François n'étaient pas un ascétisme purement extérieur, mais quelque chose de plus radical, un renoncement à transformer la réalité en pur objet d'usage et de domination. Ça revient souvent dans le discours du Saint-Père, de dire, de faire attention à la culture du déchet. Et quand il parle du déchet, c'est pas simplement du déchet qui peut, voilà, de choses que l'on jette, etc. C'est une manière de voir les choses, de déchet qui peut s'appliquer aussi à la personne, parce que ce que nous appliquons aux choses, tôt ou tard, s'applique aux personnes. Et donc, le Saint-Père, il dit, si vous n'avez pas une attitude d'émerveillement, d'abord de recevoir cette création comme un don de Dieu, de recevoir cette création comme quelque chose qui nous est donné et dont nous sommes les gardiens. Et ça, c'est capital. Nous n'en sommes pas les propriétaires, nous en sommes les gérants. Et il fera la référence au livre de la Genèse, évidemment. Et ça, c'est pas tout le monde qui le dit, que nous aurons des comptes à rendre de la manière dont nous utilisons la création et de ce que nous en faisons. Nous aurons des comptes à rendre. Et donc, si on quitte, dit Saint-Père, ce côté d'émerveillement et ce langage de la fraternité, c'est aussi un lieu qui, il parlera de la maison commune, pour parler de la terre et de la planète, il dira notre maison commune. Si on perd de vue cet émerveillement, c'est-à-dire cette humilité face à la création et ce sens que cette création, elle nous met en lien les uns avec les autres, eh bien, si on perd de vue ça, eh bien, on devient des dominateurs. Eh bien, du coup, c'est la logique du jetable, la logique de ce qui peut être une exploitation des sans limite, aux intérêts, livrés aux intérêts immédiats. Donc, ça, c'est la première chose qui est intéressante, c'est et l'image de saint François, il dit, on est appelé à vivre une certaine modestie dans l'usage des biens. Et ça, c'est important, une certaine, oui, il en parle, une certaine, même voire pauvreté. Vous le savez ou vous ne le savez pas, les conseils évangéliques, ce qu'on appelle les conseils évangéliques, c'est-à-dire les conseils de pauvreté, chasteté, obéissance, ce sont des conseils pour tous ceux qui veulent vivre l'évangile. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement pour les religieux. Les religieux en font une forme de vie, une manière d'être, et vivent et organisent leur existence à l'aune de ces trois, en font un vœu. Mais ce sont des conseils évangéliques. C'est-à-dire que toute personne qui veut vivre l'Évangile vit d'une certaine manière une certaine pauvreté, une modestie dans l'utilisation des biens, une certaine obéissance à la parole de Dieu, puis obéissance mutuelle, et chasteté, une certaine distance par rapport au corps de l'autre. Voilà. L'idée, c'est de renoncer en nous à la convoitise. La convoitise, c'est ses doigts crochus. Vous voyez, c'est à moi et c'est pour moi. Eh bien non, c'est pour la vision, en tout cas, de l'Église, c'est très clair. C'est, oui, il y a des choses qui sont à nous, mais elles sont comme... pas la négation de la propriété privée, mais elles sont à nous, mais elles sont aussi pour tous. Il y a ce désir de se défaire de ce côté âpreté au gain, vous voyez, ce côté, voilà, qui derrière ça cache un manque de vie spirituelle, qui derrière ça cache un manque de, comment on peut dire, d'abandon, d'une certaine manière, à la providence de Dieu. Et ça, je pense que c'est intéressant de voir que cette pauvreté, cette austérité de François, c'est d'abord quelque chose qui nous permet de renoncer à un usage qui est excessif, à une domination, des biens, et derrière la domination des biens, domination des personnes. Et ça, je pense que le Saint-Père fait le lien. Les questions écologiques, c'est aussi quelque chose qui renvoie à la manière de me relationner avec l'autre. Et la relation que j'ai avec la création dit quelque chose de la relation que j'ai avec l'autre. Et ça, c'est le reviendra toujours. Donc, certains axes traversent toute l'encyclique. Par exemple, l'intime relation entre les pauvres et la fragilité de la planète. Ça, c'est aussi quelque chose d'assez original, de dire, au fond, si je ne prends pas soin de la planète, il y a quelque chose de la pauvreté qui va... La pauvreté va grandir. Parce que des personnes, et on le voit, peut-être, on n'en prend peut-être pas assez conscience, mais parmi les mouvements migratoires, il y a les migrants climatiques. Non seulement c'est des personnes qui, la plupart, fuient les guerres ou la pauvreté, mais on aura de plus en plus des migrants climatiques, des personnes qui, dans leur pays, ne peuvent plus vivre à cause des dérèglements climatiques, hein, à cause de trop de sécheresse, ou de trop de pluie, ou de que sais-je. Hein. Et donc, il dit, voilà, si vous ne prenez pas soin de la planète, il y a quelque chose de la pauvre, vous préparez des grands mouvements de population, et on voit bien les conséquences et les difficultés que ça génère, vous préparez des grands mouvements de population, parce que les gens feraient et nous ferons pareil, s'ils n'ont pas quoi vivre chez eux, ben, ils vont là où il semble qu'il y ait le plus à vivre, et ensuite, surtout, vous créez une tension entre les peuples. Et donc, prendre soin de la planète et prendre soin que l'équilibre de la planète soit assuré, c'est prendre soin aussi que chacun puisse vivre là où il est et rester là où il est pour vivre. Mais si j'exploite on va prendre la question de l'Amazonie par exemple, si j'exploite l'Amazonie et je veux en tirer un profit maximum, etc., etc., progressivement, c'est ce qui fait le poumon de la planète par exemple, ça aura des conséquences sur d'autres qui ne pourront pas rester dans leur lieu où ils étaient auparavant pour travailler et vivre, et se déplaceront, et du coup, ça engendrera la pauvreté, et la pauvreté engendre les migrations, et les migrations sont souvent source de tensions. Donc, ce qui est important, et ça le Saint-Père insiste, tout est lié. Tout est lié. Si vous avez trois mots à retenir de l'encyclique, c'est ça. Le rapport à l'autre, le rapport à l'argent, hein, et le rapport à la création, tout est lié. Et donc, du coup, la façon dont on met le curseur, eh bien, ça dira quelque chose aussi de la manière dont nous traitons les autres et dont nous traitons aussi, et de la pauvreté qui pourrait aller en cette intime relation entre les pauvres et la fragilité de la planète. La conviction que tout est lié dans le monde. La critique du nouveau paradigme et des formes de pouvoir qui dérivent de la technologie, l'invitation à chercher d'autres façons de comprendre l'économie et le progrès, la valeur propre de chaque créature, le sens humain de l'écologie, la nécessité de débats sincères et honnêtes, la grave responsabilité de la politique internationale et locale, la culture du déchet et la proposition d'un nouveau style de vie. Voilà. Le Saint-Père, carrément, il dit, s'il y a des choses qui ne bougent pas dans notre manière d'envisager tout ce qu'on vient de voir, d'envisager la technologie, envisager le rapport à l'économie, si on ne met pas au cœur même de l'économie la personne humaine, et non pas l'appât du gain, eh bien, du coup, si on ne met pas ça, ça engendrera tôt ou tard une surexploitation de la création, et ça engendrera tôt ou tard eh bien, des déplacements de population, et donc des pauvretés qui n'existaient pas auparavant. Hein. Donc, du coup, c'est carrément, lui est assez, pour lui, et on voit qu'il l'applique aussi dans sa manière d'exercer la responsabilité de souverain pontife. Et il invite, voilà, il invite à un mode de vie simple. On ne parle pas de pauvreté ni de misère, il n'est pas dans la misère, mais une certaine simplicité de vie. Est-ce qu'on n'est pas, après ces 30 glorieuses, après etc., est-ce qu'on n'est pas appelé à une simplicité de vie, à quelque chose qui nous renvoie à une certaine modestie dans l'usage des biens, hein, et à un certain lieu aussi, à un certain partage dans l'usage des biens. Et ça, je pense que s'il y a quelque chose, voilà, c'est pour ça, par exemple, comme vous le savez, hein, quand il a été élu pape, il n'a pas habité, comme ça se faisait depuis des siècles, le palais apostolique. Hein, mais il habitait la maison de retraite spirituelle où les cardinaux étaient réunis, Et il a dit, ben voilà, moi je vais vivre là, et mon bureau, ce sera là-bas, et quand je recevrai les chefs d'État, etc., ben, du coup, j'irai là-bas, mais je serai au milieu des autres. Il prend ben, son plateau repas, il prend il dit, une certaine modestie, simplicité. Et je pense que le monde nous attend aussi, nous comme chrétiens, une certaine simplicité hein, de vie. Hein, et par exemple, un petit détail, c'est des choses, mais qui sont déjà, dès le premier jour, dès le premier soir, au moment, une fois qu'il a été présenté à la à Ubi et Torbi, au peuple et à la ville et au monde, hein, ensuite les cardinaux retournaient justement pour, dans la fameuse maison de retraite spirituelle. Et lui, il y avait sa Mercedes, la limousine, qui était avancée. Il dit non, je vais dans le minibus avec les autres. C'est sûr que personne, tout le monde, ben voilà, quand tu ben oui, c'est une limousine, mais je vais prendre la limousine. Ben, du coup, je ne sais pas ce qu'ils ont fait de la limousine, mais bon, ils l'ont mis au garage, mais toujours est-il qu'il a le souci aussi dans ses déplacements, etc., d'être dans une situation de simplicité. Et je pense que, et parfois, à juste titre, on a reproché à l'Église peut-être un train de vie trop important. En France, je trouve que, d'une certaine manière, l'Église vive une certaine... Peut-être à Paris, c'est un peu différent, mais quand vous allez dans la province, quand vous allez dans les milieux ruraux, etc., c'est plutôt pauvre. Quand vous voyez le salaire d'un prêtre, c'est 850 euros pour 6 ans d'études, sans compter les études qu'ils ont faites auparavant, on ne peut pas dire qu'il y ait de l'abus. Hein. Et donc, du coup, je trouve que c'est intéressant de dire que... Mais par exemple, j'étais en Amérique latine longtemps, l'Église est vue comme une institution riche. Et tout le monde est persuadé que les prêtres reçoivent de l'argent du Vatican, ce qui est absolument faux. Au contraire, il y a des quêtes qui sont faites pour envoyer au Vatican, c'est l'inverse. Donc, mais juste pour vous dire, et pourquoi il y a eu cette idée de richesse, peut-être aussi, questionnons-nous, alors on parle de la... du Vatican, on n'a peut-être pas beaucoup d'implications, mais je trouve ça intéressant de voir l'orientation qu'il donne, de dire, voilà, soyons... Derrière ça, c'est une orientation spirituelle. J'accepte les limites. J'accepte aussi que l'autre et que la création ne répondent pas à toutes mes attentes. Que ce soit pas... Que l'autre ni la création me comblent dans tout. Cette course au bien-être, cette course au confort, cette course, etc., se paye à travers la création, mais se paye aussi à travers des personnes qui, ensuite, en pâtiront, même si ces personnes-là, on ne les connaît pas. Et donc, de mettre en place des autres formes d'économie alternative qui permettent peut-être un plus grand partage et donc aussi une protection de la création. Donc voilà, donc c'est intéressant de voir ça. Le numéro 25... Beaucoup de pauvres vivent dans des endroits particulièrement affectés par des phénomènes liés au réchauffement, et leurs moyens de subsistance dépendent fortement des réserves naturelles et des services de l'écosystème, comme l'agriculture, la pêche, les ressources forestières. Ils n'ont pas d'autres activités financières ni d'autres ressources qui leur permettent de s'adapter aux impacts climatiques ni de faire face à des situations catastrophiques. Ils ont peu d'accès aux services sociaux et à la protection. Voilà. Beaucoup de personnes pauvres dépendent que de la nature pour vivre. Et du coup, si on enlève, ou si la nature, pas et souvent, par un désir d'apprêter au gain, si on puise dans la nature plus, la question de la pêche, des quotas de pêche, etc., mais aussi, on a parlé de la question de la forêt, etc., et de l'agriculture, si on puise trop, etc., des personnes ne vont plus pouvoir vivre de leur travail et seront obligées de partir. Hein, et donc, c'est la pauvreté qui est derrière. Et donc, ce lien entre défense de la nature et pauvreté, là, on en a une illustration assez évidente, quoi. Donc... Mais en regardant le monde, nous remarquons que ce niveau d'intervention humaine fréquemment au service des finances et du consumérisme fait que la terre où nous vivons devient en réalité moins riche et moins belle, toujours plus limitée et plus grise, tandis qu'en même temps, le développement de la technologie et des offres de consommation continue de progresser sans limite. Il semble ainsi que nous prétendions substituer à une beauté irremplaçable et irrécupérable une autre créée par nous. Comme vous vous en doutez, le Saint-Père n'est pas un grand défenseur du libéralisme. c'est peu de le dire. Et il dit, si on ne prend pas soin de cette beauté qui nous a été léguée, et on n'en prend pas soin parce qu'on veut développer au nom du consumérisme, au nom du développement technologique, des offres de consommation toujours plus variées, ben forcément, il y a des personnes, la nature va être impactée. Et bien, du coup, si on n'arrive pas à mettre une limite à ça, et bien on veut substituer une beauté reçue, et on voit que la nature est juste splendide, hein, quand elle est respectée, on veut substituer ça à une beauté que nous créons à notre image et ressemblance. Et donc derrière ça, il y a un combat spirituel. Derrière ça, il y a dire, dans la manière de me relationner à la nature, est-ce que j'accepte de ne pas être Dieu ? Est-ce que j'accepte qu'il y ait des domaines auxquels je ne toucherai pas ? Et on voit dans certains lieux, en tout cas, de plus en plus de zones protégées, etc., pour que la nature puisse se développer et ne pas être pillée. Mais par exemple, moi je vois en Amérique latine, il n'y a pas du tout cette culture-là. Pas du tout. Des animaux sauvages, il y en a, en tout cas, moi j'étais en Argentine, il y a très peu d'animaux sauvages. Il y a beaucoup plus d'animaux sauvages en France qu'en Argentine. Beaucoup plus. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été tous tués, de la peau vendue, etc., etc., que sais-je, mais il n'y en a plus. Donc quelque chose qui faisait partie de la biodiversité n'est plus du tout au rendez-vous parce que, voilà, c'est livré au bon gré de chacun. Et donc, alors qu'en France, je vois par exemple la question des animaux sauvages, sont quand même très, très présents, hein, surtout dans notre région en Picardie. Hein, vous croisez des sangliers tant que vous en voulez, et des cerfs, etc., mais qui sont en liberté. Donc voilà, je trouve ça intéressant de dire que y a une manière, au fond, d'accueillir une limite dans la vision du pape. J'accueille une limite, j'accueille un manque. J'accueille le fait que que le confort ne soit pas ma préoccupation numéro un. Et moi, ma question que je vous pose, et dans ce sens-là, on voit bien, c'est une forme d'ascèse, on peut dire, cette forme que l'on vit particulièrement pendant le carême. Pendant le carême, on accepte justement de ne pas être comblé partout, etc., et de vivre un manque. Ce manque-là nous tournera vers Dieu, et ce manque-là nous tournera vers l'autre et nous tournera vers la création. Vraiment, je trouve que ce qui est précieux dans la parole de Saint-Père, c'est ça. C'est cette unité des choses, cette unité de vue. On voit les choses dans l'unité. Et donc, derrière ça, il y a une question spirituelle. Le tout de suite, par exemple, que l'on voit l'immédiateté. L'immédiateté. Et clairement au détriment de la création et clairement au détriment aussi du pauvre, parce que le pauvre par définition ne peut pas être immédiat. Par définition, il n'a pas les moyens de l'immédiateté. Est-ce que vous ne serez pas invité dans votre génération à remplacer la mobilité par la proximité? On voit bien la mobilité, vous comme jeune pro, tous les week-ends, hop, dehors, etc. Et la proximité. Et la proximité, qui connaissez-vous dans un rayon de 50 mètres autour de vous? Si vous vivez chez vos parents, c'est plus facile. Mais qui connaissez-vous? Vous voyez, est-ce qu'il n'y a pas aussi une autre manière de vivre, de remplacer justement parce qu'on peut aller d'un point à l'autre de la planète de façon tellement facile, mais en même temps, est-ce que ce n'est pas sans conséquence sur l'autre? Voilà, donc. Voilà, c'est un peu ce qu'il veut nous dire le Saint-Père. Mais aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous empêcher de reconnaître qu'une vraie approche écologique se transforme toujours en une approche sociale, qui doit intégrer la justice dans les discussions sur l'environnement pour écouter tant la clameur de la terre que la clameur des pauvres. On en a parlé. Au lieu de résoudre les problèmes des pauvres et de penser à un monde différent, certains se contentent simplement de proposer une réduction de la natalité. Les pressions internationales sur les pays en développement ne manquent pas, conditionnant des aides économiques à certaines politiques de santé reproductive. Parce que si on fait si tout est lié, respecter la création, c'est respecter la personne humaine du commencement jusqu'à la fin, de sa conception jusqu'à la mort naturelle. Et donc, on voit justement ces, ces politiques malthusianistes qui dit, au fond, on est trop nombreux. Vous voyez pas, le Nigeria va être à peu près aussi grand, aussi nombreux que les États-Unis en 2050, de 450 millions d'habitants de Nigeria. Bon, du coup, il faut, en fait, le problème, c'est qu'il y a trop de bouches à nourrir, il y a un gâteau qui fait 100, si on est 50 pour le partager, ben, on aura, mais si on est 150 à le partager, du coup, personne n'aura rien. Du coup, il faut diminuer la base qui va servir au partage. Vous voyez, c'est la politique qu'on appelle malthusianiste, de dire, voilà, et évidemment, chez les personnes, les pays les plus pauvres. On ne parle pas des pays les plus riches. Et donc, je trouve ça intéressant de dire que, de faire mémoire de la parole de Dieu, hein, croissez, multipliez-vous, emplissez la terre. C'est-à-dire, la question n'est pas que la terre soit trop, pas assez productrice, etc. Au contraire, je trouve que plus il y a de personnes qui naissent, plus il y a aussi d'intelligence qui naissent et qui rendront d'autres technologies possibles pour développer une plus grande productivité. On est beaucoup plus nombreux, mais j'allais dire, on souffre beaucoup moins de la faim aujourd'hui qu'au siècle dernier. Donc vous voyez, il faut faire attention parce qu'on voit ces politiques malthusianistes qui ne et donc du coup, politique de santé reproductive, c'est-à-dire stérilisation des femmes dans les pays pauvres, politique massive droit à l'avortement obligatoire, politique massive de contraception, etc., etc. Et donc, du coup, on voit bien, autant l'Église est pour une paternité, une maternité responsable, mais là, c'est une idéologie. On conditionne des aides sociales au fait que vous réduisiez le nombre d'enfants. Et ça, je trouve ça grave. Et du coup, parfois, même, il y a eu des stérilisations de force. Je pense, par exemple, au Pérou. Parce que justement, on prend le problème. C'est pas qu'il n'y ait pas assez de richesse, il y a largement assez de richesse pour tout le monde. C'est la question de la répartition. Et donc, du coup, on prend le fait de dire, ben voilà, pour que nous, les 10% les mieux lotis, on puisse bien vivre, ben vous soyez moins nombreux. Vous voyez, c'est de l'égoïsme. C'est de l'égoïsme. Et le Saint-Père, et là-dessus, c'est sûr qu'on voit peu de politiques, les écologistes là-dessus ne sont pas tellement. Les plus défenseurs de la vie du commencement jusqu'à la fin, et même ils se sont dit on ne sera jamais d'accord avec le Saint-Père sur la question de l'avortement, etc., etc. Et pourtant c'est lié. Comment ne pas défendre la personne humaine dans ses commencements et vouloir protéger les espèces en disparition? C'est quand même aberrant. Vous voyez, il y a quand même, c'est quand même aberrant. Dans la tête, moi, ça ne me rentre pas. On protège des espèces en voie de disparition, mais on protège, je ne sais pas quoi, un oiseau qui est en voie de disparition. On va protéger les œufs, on va faire que les femelles puissent être protégées pendant leur temps de grossesse pour qu'elles puissent, etc., etc. Mais dès qu'il s'agit de la personne humaine, clac, il y a comme une sorte de bug. On ne voit pas le lien qu'aussi protéger la vie depuis le début. Eh bien, fait partie de la protection de la nature. Parce que nous faisons aussi partie de la protection, nous faisons partie de la nature. Nous sommes des êtres naturels. C'est ce que a dit le Saint-Père, alors ça avait remué aux Philippines. Attention, nous ne sommes pas des lapins. Il avait dit ça, je ne sais pas si vous vous rappelez un peu de cette phrase-là. Et du coup, tout le monde, toutes les familles ont l'air de dire, ben, faites pas des gamins quand il est industriel, etc. Du coup, toutes les familles, mais de familles nombreuses, mais plutôt du côté de Versailles que du côté des Philippines, c'était ému, etc. Nous ne sommes pas les lapins, etc. Mais on a 6 enfants, c'est pas pour ça qu'on est. Oui, mais du coup, c'est pas tout à fait les mêmes vies ici et là-bas. Oui, il y a un appel à une maîtrise de soi-même et à une régulation de la natalité par. En respectant la nature, là aussi, c'est intéressant. Bon, le Saint-Père n'en parle pas de ça. J'étais un peu déçu de ça, que des méthodes naturelles de régulation des naissances. Bon, mais c'est naturel, je veux dire. On trouve aussi, la nature a fait qu'il y ait des périodes de fertilité, de non-fertilité, etc. Et donc, du coup, voilà. Mais on ne défend pas, c'est ça. Du coup, bien sûr que l'Église promeut une paternité, une maternité responsable. Il ne s'agit pas d'aller à tout va et de faire des enfants qui pourraient les laisser mourir de faim. On est bien d'accord. Mais vous voyez, là, ce que dit Saint-Père, c'est autre chose. C'est-à-dire, aux autres de faire des efforts, moi, je ne me priverai pas. Ça, c'est pas de Dieu. Et aux pauvres de faire des efforts, c'est quand même, c'est dingue. C'est vraiment, c'est pas de Dieu. Ça, c'est tout à fait clair. Hein? Déjà, ceux qui triment, ceux qui... à eux de faire des efforts, et, alors que là, pour avoir été traîner mes guettes dans des bidonvilles, etc., je peux vous dire que la plus grande, et peut-être vous, certains d'entre vous, vous avez fait des missions en humanitaire, etc., la joie, la plus grande joie, c'est de voir ses enfants, c'est de voir, etc., et c'est une première... Alors, il faut en prendre soin, et l'Église est très présente dans l'éducation, les soins, la santé, etc. C'est vrai qu'il y a beaucoup à faire. Mais si on avait simplement un peu de partage, des chiffres comme ça, mais j'avais... Pour résoudre la faim dans le monde, il faudrait 90 milliards, je pense, de dollars pour résoudre la... qui représente 1% des ventes d'armement. Donc ne disons pas qu'il n'y a pas les moyens. Alors ensuite, il y a la corruption, il y a tout. Tout est lié, ensuite, c'est compliqué, je ne dis pas que c'est simple. Mais ce que dénonce Saint-Père, il dit, attention, on ne peut pas... on ne peut pas demander des efforts aux autres alors que nous, on est dans l'opulence. Ça, ce serait pas évangélique. Hein, au lieu de résoudre ça, le problème des pauvres et de penser à un monde différent, on se contente de proposer des réductions de la natalité. C'est ça. Numéro 52, c'est la dette extérieure des pays pauvres s'est transformée en un instrument de contrôle, mais n'en est pas de même pour la dette écologique. Ça, c'est aussi une chose intéressante. De diverses manières, les peuples en développement où se trouvent les plus importantes réserves de la biosphère continuent d'alimenter le développement des pays les plus riches au prix de leur présent et de leur avenir. C'est-à-dire qu'il dit qu'il y a la dette écologique. Ça, c'est un concept aussi assez nouveau, novateur, de dire que nous sommes, les pays pauvres souvent, sont plus en dette. Bon, nous aussi, on a de la dette, mais eux ont pas mal de dette. Mais est-ce qu'on pense qu'en puisant de façon excessive dans les ressources de ces pays-là, nous aussi, nous avons une dette écologique à leur devoir et à en prendre soin. Du coup, c'est assez intéressant de voir cet aspect-là qui n'est pas pris en compte, ça, c'est moins qu'on puisse dire. Par ailleurs, même si cette encyclique s'ouvre au dialogue avec tous pour chercher ensemble des chemins de libération, je veux montrer dès le départ comment les convictions de la foi offrent aux chrétiens et aussi à d'autres croyants des grandes motivations pour la protection de la nature et des frères et sœurs les plus fragiles. Si le seul fait d'être humain pousse les personnes à prendre soin de l'environnement dont elles font partie, les chrétiens notamment savent que leur devoir à l'intérieur de la création et leur devoir à l'égard de la nature et du Créateur font partie intégrante de leur foi. Donc, si c'est bien pour l'humanité et pour le monde, que nous, les croyants, nous reconnaissons mieux les engagements écologiques qui jaillissent de nos convictions. C'est intéressant de dire, voilà, alors là, il a abordé des aspects plus généraux, hein, juste pour revenir sur l'encyclique, ça fait partie de ce qu'on appelle la doctrine sociale de l'Église, la pensée sociale de l'Église, c'est-à-dire que l'Évangile appliqué aux réalités de ce monde. C'est ça que ça veut dire, la pensée sociale de l'Église. L'Évangile, c'est pas... Il y a d'autres textes sur l'Eucharistie, sur la foi, sur la... Mais là, c'est la doctrine sociale de l'Église, du coup, c'est voilà, qui unit les choses aussi, de dire que c'est à partir d'une vision de foi que l'on peut aussi voir notre monde comme étant un don, hein, mais qu'aussi on a un engagement. Et puis, je trouve aussi, je me rappelle plus, ça fait longtemps que je l'ai lu, mais je trouve que l'écologie peut être un vrai lieu de dialogue interreligieux. Quelque part, entre les religions, c'est quelque chose qui fait l'unanimité. La question de l'écologie. Parce que, dans toutes les religions, en tout cas monothéistes, hein, etc., la question de la création et d'un Dieu créateur est présente. Et que l'on doit, d'une certaine manière, protéger la création, c'est quelque chose qui... Et je trouvais ça intéressant, cette initiative... de M. Sarkozy, avant qu'il parte. Et c'était intéressant parce que c'était l'Union pour la Méditerranée. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. C'est l'union pour la Méditerranée, et non pas l'union méditerranéenne. Ça, c'est impossible, parce que quand on voit tous les pays qui trempent leurs pieds dans la Méditerranée, faites le tour surtout au sud, c'est assez compliqué pour se mettre d'accord entre eux. Mais l'union pour la Méditerranée, c'est-à-dire, on va se mettre d'accord pour que cette Méditerranée, on en prenne soin. Et on va se mettre d'accord. Des pays qui eux-mêmes sont en guerre pourraient très bien se mettre d'accord pour travailler ensemble, parce qu'ils sont, de façon égoïste, ils sont tous concernés. Et que si ce qui impacte la Méditerranée les impacte tous, et nous impacte tous. Et ça, c'est important, c'est aussi la mondialisation. Aussi. Je peux pas dire que ce que je produis, la toxicité de certains produits, etc., ça va se limiter à mon propre pays, c'est pas possible. Hein, aujourd'hui, ça, on voit les Chinois qui sont débordés par une pollution endémique à force d'avoir été à fond dans le développement industriel, etc., etc. Ben, ils voient bien les conséquences que ça a. Ils sont en train de faire marche arrière. Hein, mais du coup, je trouvais ça intéressant de dire que ça peut être un lieu plus qui est, je trouve, pas assez exploité, un lieu de contact entre les religions où les religions ont quelque chose à dire. Et ça, c'est, ouais, je pense qu'en tout cas, c'est. Et nous, c'est à partir de notre fond, on sent que l'implication, notre implication, elle est là, elle doit être là, vraiment au rendez-vous, elle est au rendez-vous, pour pouvoir être vraiment dans une attitude de confiance, et de, parce qu'on se sent envoyé par le Seigneur aussi pour prendre soin de la création. Le 68. Le repos du septième jour n'est pas proposé seulement à l'être humain, mais aussi afin que se repose ton âne et ton bœuf. Exode 23, 12. Nous nous apercevons que la Bible ne donne pas lieu à un anthropocentrisme despotique qui se désintéresserait des autres créatures. Dieu ainsi, voilà, des autres créatures, voilà. C'est, alors, la question du repos. Et la question du Shabbat, hein, c'est dans l'Ancien Testament, mais le repos aussi dominical. Et c'est là où on voit que le repos de l'homme, c'était aussi le repos de la nature. Et donc, on voit poindre par-ci, par-là, des velléités de vouloir travailler 7 jours sur 7, que tout soit ouvrable le dimanche. Vous allez à Londres, vous ne voyez aucune différence entre le dimanche et les autres jours de la semaine. Moi, je n'ai vu aucune différence. Tout est ouvert tout le temps, pratiquement. Peut-être certaines échoppes, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est incroyable, tout est ouvert tout le temps. Mais vous voyez à quoi on reconnaît l'idolâtrie ? À quoi on reconnaît l'idolâtrie ? L'idolâtrie, on la reconnaît au fait qu'il n'y a pas de repos. Il n'y a pas de repos. C'est toujours l'idolâtrie de l'argent, l'idolâtrie du pouvoir, voilà, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Hein? Et tôt ou tard, ce toujours plus se transmettra se traduira par un coût écologique considérable. Et donc le fait d'avoir un repos aussi dans la Bible, il cite ton repos, ce sera le repos aussi de ton âne et de ton bœuf. Et donc vous avez dans la Bible, par exemple, dans l'Ancien Testament, c'était le jubilé, la question des jachères. Tu feras reposer le sol, tu accepteras de ne pas en tirer profit, pour te rappeler que tu es créature, que tu n'es pas Dieu. C'est ça la question. Tu es créature, tu n'es pas Dieu. Et quelque part, le 7 jours sur 7, c'est une sorte de dire, voilà, je veux être Dieu, alors que Dieu lui-même, selon la tradition biblique, voilà, s'est reposé, il n'a pas créé le septième jour. Et on voit bien que le repos dominical est assez bien, mis voilà, c'est compliqué en tout cas, on sent qu'il y a des velléités de le supprimer. Au profit de quoi ? On va dire, on va consommer plus. Comme si les gens avaient plus d'argent, le fait qu'il y ait une journée plus ouverte. Non. Alors oui, il y a les étrangers. Alors bien sûr, pendant que certains se reposent, d'autres travaillent. Ça, je suis d'accord qu'il y ait des restaurants, il y a des choses un peu admises. Mais vous voyez, derrière ça, c'est plutôt une idéologie de dire du toujours plus et que, quelque part, je n'accepte pas de limite. Quoi. Donc, est-ce que c'est... Dieu insiste. Qu'as-tu fait ? Écoute le sang de ton frère crier vers moi du sol. Maintenant, sois maudit et chassé du sol fertile. C'est Caïn et Abel. La négligence dans la charge de cultiver, de garder une relation adéquate avec le voisin, envers lequel j'ai le devoir d'attention et de protection, détruit ma relation intérieure avec moi-même, avec les autres, avec Dieu et avec la terre. Hein, Caïn et Abel, donc on voit, voilà, soit maudit et chassé du sol fertile. Voilà, ça c'est, vous y reverrez en Genèse 4. C'est intéressant de faire le lien, justement. Qu'as-tu fait de ton frère ? Je ne me suis pas préoccupé de ton frère, je me suis préoccupé de mon frère, de fait, et bien du coup, sois chassé du sol. Il y a quelque chose de la création auquel tu n'auras plus accès. Et il y a quelque chose de la création auquel on a accès quand on a aussi un souci de l'autre. Quand toutes ces relations sont négligées, quand la justice n'habite plus la terre, la Bible nous dit que toute la vie est en danger. Dans les récits si anciens, tout est lié. La protection authentique de notre propre vie, comme dans nos relations avec la nature, est inséparable de la fraternité, de la justice, ainsi que de la fidélité aux autres. Vous voyez, par exemple, là aussi, bon, le Saint-Père ne parle pas dans l'encyclique, mais la fidélité, la stabilité matrimoniale, l'indissolubilité du lien matrimonial dans le sacrement de mariage. C'est quelque chose. Et on voit à revers, on voit la quantité de séparation. Maintenant, pratiquement pour beaucoup de familles, il faut deux appartements. Il faut deux appartements par famille. Donc, et puis on joue au ping-pong avec les enfants. Tout ça, ça a un coût aussi que la nature doit payer. Et c'est là où l'Église est assez cohérente. À la fois, elle défend le lien conjugal, mais elle défend le lien conjugal précisément parce que c'est une manière aussi de, en étant dans une fidélité aux autres, d'être dans une fidélité à la nature. Alors c'est vrai que Europe Écologie Les Verts, je ne l'ai pas vu dans son programme. Je l'ai vu dans aucun programme. La défense du lien matrimonial. Bon, mais ce serait. Mais voilà, peut-être il m'entendrait, il pousserait des grands cris de. Voilà, mais c'est lié. C'est évident que c'est lié. C'est évident. Hein? Pour la tradition judéo-chrétienne, dire création, c'est signifier plus que nature. C'est dire un rapport avec un projet de l'amour de Dieu dans lequel chaque créature a une valeur et une signification. La nature s'entend d'habitude comme un système qui s'analyse, se comprend, se gère, mais la création peut seulement être comprise comme un don qui surgit de la main ouverte du Père de tous, comme une réalité illuminée par l'amour qui nous appelle à une communion universelle. Voilà. Voilà, nous comme chrétiens, nous voyons la création comme un don qui nous appelle à une communion universelle. La fin ultime des autres créatures, ce n'est pas nous, mais elles avancent toutes avec nous et par nous, jusqu'au terme commun qui est Dieu, dans une plénitude transcendante où le Christ ressuscité embrasse et illumine tout, car l'être humain, doué d'intelligence et d'amour, tiré par la plénitude du Christ, est appelé à reconduire toutes les créatures à leur créateur. Voilà, c'est... la finalité, le but ultime de la création, ce n'est pas nous. Nous sommes mis, l'homme et la femme sont les gérants, les gestionnaires, mais ils ont comme mission au plan spirituel de guider toute la création vers le Seigneur. Ils ont mission d'être les gardiens, les gérants, hein, et de tout remettre au Père, hein, par le Christ. Hein. Donc c'est intéressant de cette dimension spirituelle aussi dans notre manière de concevoir l'écologie. Quand nous insistons pour dire que l'être humain est image de Dieu, cela ne doit pas nous porter à oublier que chaque créature a une fonction et qu'aucune n'est superflue. Tout l'univers matériel est un langage de l'amour de Dieu, de sa tendresse démesurée envers nous. Le sol, l'eau, les montagnes, tout est caresse de Dieu. L'histoire de l'amitié de chacun avec Dieu se déroule toujours dans un espace géographique qui se transforme en un signe éminemment personnel. Et chacun de nous a en mémoire les lieux dont le souvenir lui fait beaucoup de bien. Celui qui a grandi dans les montagnes, ou qui enfant s'asseyait pour boire l'eau au ruisseau, ou qui jouait sur une place de son quartier, quand il retourne sur ces lieux, se sent appelé à retrouver sa propre identité. C'est sûr que si, c'est évident, il y a des lieux qui nous touchent. Et ces lieux s'ils disparaissent, eh bien, quelque chose de notre identité qui disparaît. Si vous êtes touché par la montagne, si vous êtes touché par ou des lieux où vous avez vécu des choses, des lieux qui vous ont poussé à la prière, à l'émerveillement. La création, c'est pas seulement extérieur à nous-mêmes. Ça fait partie de nous. D'où le drame de cette destruction, d'où le drame de la guerre, d'où le drame de tas de lieux qui n'existeront plus. Et donc de quelque chose, dont le drame aussi des migrations, etc., des personnes qui, dans leur identité, ont été déracinées. Déracinées de lieux qui étaient sources pour eux. Je vois, par exemple, nous, dans notre famille, on a une maison de famille. Mais on sent bien que c'est une... Et peut-être dans vos familles aussi, ça, vous sentez que c'est un lieu parfois aussi de combat, parce qu'on n'est pas tous d'accord quoi faire avec cette maison, etc. Mais c'est aussi un lieu de source, un lieu auquel on se rassemble, auquel on a... c'est les souvenirs d'enfance, c'est les œufs de Pâques cachés dans le jardin, c'est je sais que sais-je, veux dire, c'est tout ce qui... Nos souvenirs, nous sommes construits grâce à la nature. Qui a construit aussi ma propre identité. Le principe de subordination de la propriété privée à la destination universelle des biens et par conséquent du droit universel à leur usage est une règle d'or du comportement social et le principe de tout l'ordre éthico-social. La tradition chrétienne n'a jamais reconnu comme absolu et intouchable le droit à la propriété privée et elle l'a souligné la fonction sociale de toute forme de propriété privée. Saint Jean-Paul II a rappelé avec beaucoup de force cette doctrine en affirmant que Dieu a donné la terre à tout le genre humain pour qu'elle fasse vivre tous ses membres sans exclure ni privilégier personne. Vous voyez, un des piliers de la pensée sociale de l'Église, ce qu'on appelle la destination universelle des biens. Alors que le communisme dit « c'est à tous et c'est pour tous », alors que le libéralisme dit « c'est à moi et c'est pour moi », la pensée de l'Église c'est « c'est à moi, mais ce que j'ai est une responsabilité. C'est à moi, mais c'est pour tous. » Les richesses que je peux avoir, au plan spirituel, au plan intellectuel, au plan matériel, sont aussi une responsabilité par rapport à d'autres. Et nous ici qui avons tant reçu, ben voilà, à celui qui a été beaucoup donné, il sera aussi beaucoup demandé. Et donc de prendre conscience de ça, que à travers ce que j'ai reçu au plan intellectuel, spirituel, matériel, il y a un engagement par rapport à l'autre. Ça c'est la pensée, un des piliers de la pensée sociale de l'Église qui est très très fort. Et la propriété privée n'est pas un absolu. C'est pas un absolu. Si vous êtes, imaginons, vraiment affamé. Vous êtes affamé, etc., etc. Et vous n'arrivez pas à vous nourrir, etc. Si vous volez, eh bien, vous n'avez pas à vous confesser, parce que le fait d'être humain fait que aussi on doit recevoir et de la nourriture et on doit recevoir et dû à notre humanité la nourriture, le soin, etc. Donc ça va très loin. Alors c'est sûr, si vous allez à l'étal de Fauchon et que vous prenez du caviar, là, c'est peut-être pas forcément dans un cas d'extrême nécessité. Mais c'est intéressant de voir jusqu'où ça va. La propriété privée n'est pas un absolu. C'est une responsabilité. Elle est reconnue, mais qu'est-ce que tu en fais? En quoi elle te pousse vers l'autre? Et par exemple, une maison de famille, en quoi cette maison de famille me pousse vers les autres, frères, sœurs, oncles, tantes, etc., cousins? En quoi c'est un lieu de communion? Moi, je suis très attaché à ça par rapport à notre maison de famille, parce que ça peut être très bien un lieu de division. Ça, il n'y a qu'à appuyer sur le bouton. Mais est-ce qu'en quoi ce que j'ai est aussi me pousse à la communion? Voilà, mes amis. Alors, je vois le bureau déjà qui me regarde avec assistant. Je vais arrêter là. Est-ce que vous avez des questions? Vous lirez le reste des paragraphes. Est-ce que vous avez des questions? Oui. La propriété, j'ai pas entendu.
Oui.
Alors, si elle divise, est-ce qu'il faut s'en débarrasser? Alors, premièrement, une propriété, c'est un cas concret, propriété de famille, si elle divise, si on, comment c'est arrivé que les propriétés de famille eh bien, ne soient plus dans les familles? C'est à cause des divisions. Mais là, en général, une propriété, c'est plus qu'une propriété. C'est-à-dire qu'une maison, c'est plus qu'une maison. C'est permet de, je vois très bien avec ma propre famille, permet de revisiter les liens entre les personnes. Et ce n'est qu'un épiphénomène. On va faire des travaux. Ah non, maintenant moi je veux faire à droite, moi je veux faire la salle de bain à gauche, moi je veux faire ça. Mais c'est l'épiphénomène de dysfonctionnement dans la famille. Et c'est l'occasion rêvée de s'engueuler. Donc, ce qu'il faut revisiter, le fait de vendre la propriété ne réconciliera pas la famille. Ne réconciliera pas. Ils se parleront plus, ils n'auront plus de choses en commun. Alors, ils s'engueuleront moins. Mais est-ce qu'ils se verront plus? Très certainement pas. Très certainement pas. Et je pense que... merci pour cette question, parce que moi, je suis très attentif, justement, à cette maison de famille. C'est clairement un lieu de tension dans notre famille. C'est clairement un lieu de tension avec mes neveux, avec moi, je n'ai pas de part là-dedans ni quoi que ce soit. Mais du coup, c'est moi qui suis. J'ai pris le lead là-dedans parce que justement, je n'ai aucun intérêt dans cette maison. Dans le sens, c'est comme religieux, voilà. C'est pas, je ne vais pas léguer à mes enfants. Donc, du coup, c'est intéressant de voir au fond qu'à partir d'une question simplement qui peut paraître matérielle, on touche ensuite les relations entre les personnes et parfois les dysfonctionnements entre les personnes. Donc le vrai problème n'est pas la maison. Le vrai problème, c'est les dysfonctionnements, les personnes qui dysfonctionnent, les manques de pardon, de réconciliation, d'humilité. Oui. Ah, rien n'est à moi et c'est pour tout. La différence, elle est capitale, c'est qu'on reconnaît que le fait de posséder fait partie aussi de la dignité de la nature humaine. Et le. Oui, ah oui, si les. Oui, ah, oui, mais la réalité n'est pas comme ça. C'est-à-dire, quelque chose n'appartient à personne, tôt ou tard, il appartiendra à quelqu'un. Donc voilà, tôt ou tard, malheureusement, la nature est faite. Si vous voyez un bout de terrain qui est juste le vôtre, et vous voyez que, au fond, personne n'entretient, personne n'est là, etc., le grillage, et bien vous poussez pour étendre votre propriété vers l'autre. Parce que ça fait partie. Le reste serait un peu idéaliste. Je veux dire, on renonce à toute forme de propriété et on vit dans une forme de. Tout est à tous. C'est pas la réalité, parce que notre humanité est marquée par le péché, par la convoitise. Et donc, vous trouverez toujours quelqu'un qui voudra prendre votre bien, sauf les biens qui ont une destination publique. Alors voilà, c'est les services publics, les lieux publics. Voilà, dans les copropriétés, il y a des lieux privés, il y a des lieux publics. Ça appartient à tous, mais c'est codifié, parce qu'on a besoin de règles.